France Inter.
Auteur et dessinateur de bande dessinée, réalisateur et enquêteur Gonzo, Mathieu Sapin dirige également la collection Embarqué chez Dargo. Avec l'album À l'intérieur, police, gendarmerie, opération spéciale, 5 saisons au cœur du plus secret des ministères, paru aux éditions Dargo, l'auteur des hilarantes aventures de Super Murgeman, de campagne présidentielle du Château, de Comédie française et de Gérard nous plonge cette fois-ci dans l'univers de la place Beauvau, dans les coulisses du ministère de l'Intérieur. Il raconte en images et avec beaucoup d'autodérision les mois qu'il y a passé à observer différents services entre 2023 et 2024, et l'on y croise bien plus de corps de métiers et d'acronymes que ce que vous pourriez imaginer. Dans des émeutes à Mayotte ou à Paris, dans les bureaux de la brigade des stupes, chez la police des polices alias les boeufs carottes, à la brigade de protection des mineurs ou encore à la division des affaires non élucidées de la gendarmerie nationale, Mathieu Sapin sue littéralement sang et eau pour vous montrer ce qu'il se passe. Une immersion captivante qui rend notre canapé très agréable à fréquenter. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Mathieu Sapin.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
La lecture. J'aime beaucoup lire en ce moment. Donc la dernière chose, c'est la lecture d'un livre de Frutero et Lucentini, voilà, qui s'appelle La nuit du grand boss. Voilà.
La nuit du grand boss ?
Ouais, c'est un livre qui date des années 70.
D'accord, mais j'ai boss,
ça s'écrit. Boss, B-O-2-S.
D'accord. Boss.
Le grand boss, ouais.
Bien sûr. vous êtes né à Dijon.
Oui.
Quel est votre rapport à la moutarde ?
Je consomme énormément de moutarde, et s'il n'y a pas de moutarde quand je mange de la viande, il me manque quelque chose. Donc oui, je suis fidèle à ma région.
Vous avez fait les Arts Déco de Strasbourg.
Ouais.
Quel est votre rapport à la choucroute ?
C'était plus de la flammekueche là-bas, le plat des étudiants. Et d'ailleurs, l'école a changé. Maintenant, elle s'appelle la HEAR, Haute École des Arts du Rhin. Mais moi, je continue à dire les Arts Déco.
Vous avez fait les aventures de Super Murgeman. Quel est votre rapport à l'alcool?
Assez modeste, assez sobre. Je bois, mais pas de façon excessive. Mais mon alter ego, mon super-héros, en effet, consomme beaucoup, beaucoup de Super Murgebière. Et il en tire son super pouvoir qui consiste à vomir sur ses ennemis. Voilà, je suis au regret. Mais bon, ouais, c'est typiquement quelque chose que j'avais inventé quand j'étais étudiant aux Arts Déco, justement.
Mais alors, il paraît que l'idée est apparue à Corfou en 95 et qu'elle a été accompagnée d'une obsession autour de Bernard Ménez.
Waouh ! Alors là, vous êtes bien renseigné. Alors oui, en effet, c'était une espèce de blague potache avec des copains lors d'un voyage, un voyage interrail. À l'époque, on pouvait voyager dans toute l'Europe. On peut toujours.
Ouais. Oui.
Et je ne sais pas pourquoi, c'était fait tout un délire avec Bernard Ménez. Et je l'ai croisé il y a quelques temps lors d'une avant-première à Paris. C'était ridicule, mais j'avais peur qu'il ait lu Super Murgeman, qui a été tiré à 1000 exemplaires maximum. Mais j'osais pas croiser son regard. Et donc, je me suis... Parce que c'est dans ma BD, c'était le méchant, Bernard Ménez.
Voilà. C'est une BD très très drôle.
Merci.
Stupéflip, vite de Stupéflip. Et je l'ai mis parce que quand vous parliez dans des interviews, Mathieu Sapin, de Super Murgeman, vous parliez d'une jouissance un peu infantile. Mm-hmm. Et c'est la même que vous avez ressentie en découvrant Stupéflip.
Oui, exactement. Oui, parce que c'est aussi le rapport à une espèce de monde qu'on s'invente quand on est enfant, avec des personnages, souvent avec des noms un peu idiots, mais on est dans son délire personnel. Et moi, j'avais ça avec mes dessins, mes BD, mais j'ai retrouvé ça avec King Ju et Stupéflip. Ouais.
Où en êtes-vous des jeux de rôle ?
J'ai eu une longue période quand mes filles sont nées où j'ai arrêté, je suis devenu adulte. Et puis quand elles sont devenues elles-mêmes ados, j'ai replongé. Et là, je joue beaucoup, beaucoup à nouveau aux jeux de rôle, principalement à un jeu qui s'appelle L'Appel de Cthulhu, qui est tiré de l'univers de Howard Philip Lovecraft.
J'ai fait une émission sur lui il n'y a pas longtemps, mais je crois que vous avez fait un album sur lui.
Oui, tout à fait, avec Patrick Pion, qui s'appelle Les rêves dans la maison de la sorcière. Voilà.
Vous avez aussi fait de la philosophie pendant un an.
Ouais, euh, 2 ans, mais la deuxième année, c'était tellement une cata que j'ai arrêté. Donc, on peut dire 1 an, oui.
D'accord. Vous en gardez un bon souvenir ?
Ouais, très bon. Très, très bon, parce que je m'étais planté au concours, à différents concours d'école d'art après le bac. Et j'avais pas de plan. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire de la philo. Et j'ai fait ça un peu en touriste. Et en fait, ça m'a plu. Mais au bout d'1 an, j'ai quand même réussi à décrocher une entrée dans une école d'art. J'ai imaginé que je pourrais faire les deux en même temps, et puis pas du tout. Et donc, je me suis consacré au dessin.
À la place du service militaire, vous avez été objecteur de conscience. Et ouais. C'était au musée de la bande dessinée à Angoulême.
Ouais.
C'est fou quand même, ça vous saviez déjà que vous vouliez faire de la bande dessinée à ce moment-là ?
Oui, quand même. J'étais déjà donc étudiant, je faisais de la BD en amateur. Et j'ai eu cette chance, notamment par cet ami Patrick Pion dont je parlais tout à l'heure, là, qui lui était au Beaux-Arts d'Angoulême et qui m'a dit il y a un poste qui se libère au musée de la BD. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et pendant 2 ans, ouais, je travaillais dans le musée, je pouvais lire toutes les BD que je voulais. Et surtout, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont compté et qui m'ont permis de devenir dessinateur, tout simplement.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer. Gardes, obéissez sans tarder davantage!
Ce n'est plus votre fils, c'est le maître du monde.
De quel nom, cependant, pouvons-nous appeler l'attentat que le jour vient de nous révéler?
Mathieu Sapin, on entend la bande-annonce de Britannicus de Racine, mise en scène par Stéphane Braunschweig, parce que en 2018, quand vous l'avez vu à la Comédie Française, il y a eu un déclic.
Oui, il y a eu un déclic parce que j'étais en train de replonger dans. Je m'étais écarté du pouvoir, j'avais suivi François Hollande à l'Élysée. Et puis j'ai croisé la route du prochain locataire de l'Élysée, qui était Emmanuel Macron, enfin qui est Emmanuel Macron. Et là, j'ai eu l'envie de faire une bande dessinée sur la fascination du pouvoir et la fascination de certains artistes pour le pouvoir. Et je me suis posé la question, pourquoi moi, j'ai envie, enfin ça m'intéresse de raconter le pouvoir. Et en allant voir Britannicus un peu par hasard, j'ai découvert que Jean Racine, qui a donc écrit Britannicus, avait lui complètement plongé dans la fascination du pouvoir, puisqu'il avait assez vite arrêté sa carrière de créateur de pièces, de dramaturge, pour devenir historiographe du roi. Et pendant 20 ans, c'est long 20 ans, il a raconté l'histoire de Louis XIV.
Vous n'avez pas peur de terminer comme lui ?
J'essaye de me soigner. donc c'est pour ça que j'ai fait cette bande dessinée qui s'appelle Comédie Française, qui raconte ça.
Parce que vous êtes beaucoup encanaillé dans différents lieux de pouvoir. Campagne présidentielle, c'était une enquête de 6 mois dans l'équipe de campagne de François Hollande. Le château, 1 année dans les coulisses de l'Élysée. Comédie Française, voyage dans l'antichambre du pouvoir sur Emmanuel Macron et aussi sur la cour de Louis XIV. Et avec Johann Sfar, le ministère secret chez Dupuis, c'était de la fiction uniquement ?
Oui. Oui, là c'est Johann Sfar qui un jour, ça l'amuse beaucoup de voir ce que je traverse, ce que je raconte, enfin mes aventures, et donc il s'est dit mais on peut pousser plus loin le bouchon, et donc il a écrit une histoire sur mesure dont je suis le personnage principal, mais je signe même pas une virgule du texte, donc je suis sa marionnette. Mais c'est assez rigolo, mais comme on se connaît très bien, on est en confiance.
Vous avez aussi fait 12 voyages présidentiels aux éditions Zadig. C'était des voyages avec Macron, l'ouvrage collectif Carnet de campagne, où vous pouviez choisir qui suivre.
Oui. Ah oui, c'est moi qui ai réuni le casting. On était 6 auteurs. Donc il y avait Louison, Dorothée de Montfred,
Morgane Navarro, Lara et Coco Pello.
Voilà. Et donc tous ces auteurs, autrices, ont suivi différents candidats pendant la campagne présidentielle de 2022. Et puis, moi aussi, je faisais partie du lot.
Mais est-ce que vous qui avez choisi. Pardon, vous qui avez suivi des journalistes politiques aussi avec Libération, est-ce que finalement, quand on s'intéresse au pouvoir et qu'on enquête dessus, on n'en fait pas partie de ces cercles ?
Ah oui, bah, on est dans l'image. C'est ça qui c'est aussi pour ça que je mets souvent en scène des journalistes également, parce que ils font partie de cet écosystème qui est le récit politique. Sans les journalistes, il n'y a pas de récit politique.
Et vous dites que vous trouvez que le théâtre de la politique française reste très séduisant. D'aucuns le trouvent ridicule. Qu'est-ce qui est séduisant selon vous?
Alors on peut être séduisant et ridicule.
Ah oui?
Je pense, ouais.
Peter Sellers, oui, c'est vrai.
Par exemple, Pierre Richard.
Oui.
Et moi, c'est ça que j'aime bien, justement. C'est montrer dans tout ce qui est réel, dans les situations réelles, le ridicule. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec quelqu'un comme Donald Trump, c'est très difficile d'être plus inventif. Enfin, je sais qu'il y a une série que j'adore qui s'appelle VIP, qui, dans les années 2000-2010, c'était comme une satire de la vie politique américaine, et aujourd'hui ils peuvent pas suivre parce que Trump a tout dépassé, quoi.
Bah, les créateurs de South Park ont dit qu'ils pouvaient pas, là ils pouvaient plus, en fait Trump les avait dépassés aussi, ce qui est quand même difficile. Vous publiez la bande dessinée à l'intérieur chez votre fidèle éditeur Dargo, et l'inquiétude qui revient tout du long, c'est que vous craignez, en vous intéressant au ministère de la place Beauvau, d'être catalogué de droite. Je vous cite, et voilà, j'ai plongé, moi, un pacifiste dessinateur de BD, ancien objecteur de conscience qui plus est, de gauche ça va sans dire, comment en suis-je arrivé là? Donc, vouloir le bien de ceux qui œuvrent à ce ministère, et ils sont pléthores, c'est forcément être de droite?
Bah, c'est des questions qui... Oui, par exemple, là, quand j'en ai parlé, je me souviens à quelqu'un dans mon entourage de ce projet de bande dessinée, sa première réaction, c'est « Ah, super, tu vas taper sur les flics ». Et je lui dis « Mais non, je vais pas taper sur les flics, je vais pas non plus les caresser, mais je vais essayer de raconter leur vie, raconter ce qu'ils font, m'intéresser à ce milieu ». Mais c'est vrai qu'en France, on a ce prisme de « forcément, faut être d'un côté ou de l'autre ». Quand on parle de la police. Et souvent, donc, il y a un biais politique qui est que si on s'intéresse à la police, c'est forcément, on est plus à droite. Et si on est dans une espèce de recherche plus critique, on est plus à gauche.
Alors que pourtant, quand on s'intéresse aux conditions de travail des policiers, enfin, je me suis intéressée pour l'émission, plus de 1100 policiers se sont suicidés au cours des 25 dernières années, sur 44 suicides par an en moyenne, un taux de suicide supérieur de près de 50% à celui de la population française.
Oui, et d'autant que on parle d'un service public, donc ça concerne tout le monde, et souvent, l'attitude évidemment change selon selon la situation dans laquelle on est, évidemment, parce que parfois on est très content d'avoir la police pour en cas de besoin.
Mais pas quand on est une mule.
Par exemple.
Parce que vous parlez aussi des mules dans l'album.
Les mules, oui, en train. Bah, il y avait ça aussi. Oui, c'est les personnes qui trimballent de la drogue.
Dans leur corps.
Dans leur corps, oui.
L'idée de cet album, ça vous a été suggérée par Camille Chaise, commissaire de police et ancienne porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui a démissionné de ses fonctions en janvier dernier, avant l'apparition de son livre. Et la préparation de cet album, vous dites, Mathieu Sapin, qu'elle a été très éprouvante.
Oui. Oui, parce que quand on dit préparation, donc alors de quoi on parle? Cet album, c'est ce qu'on appelle une immersion, c'est-à-dire que pendant des mois, pendant un an et demi, je vais aller sur le terrain et voir en vrai les différents services. Et ensuite, dans un deuxième temps, je raconte ça sous forme graphique. Je me mets en scène, je me dessine. Donc, on me suit en train d'essayer de comprendre. C'est très tentaculaire. Il y a plein de services. Et donc, c'était un rythme effréné parce que j'ai fait plus d'une trentaine de services différents dans des lieux différents, donc à Paris, mais aussi ailleurs sur le territoire. Et c'est un rythme intense, oui.
Alors ça commence parce que vous vous arrêtez pas de vous dire pendant la bande dessinée qu'est-ce que je fous là, et on dirait que vous avez envie de partir tout le temps. Ça commence quand même un jour de manifestation contre la réforme des retraites. Vous rejoignez une unité de policiers, ils vous équipent et on vous prévient que des pétards peuvent vous rendre sourd, que des jets d'acide peuvent vous brûler les bras et qu'on peut vous jeter des explosifs sous forme de bouteilles d'eau, donc vous portez un casque. On vous parle aussi des bombes artisanales qui projettent des clous.
Oui.
Alors comment sont les policiers dans ces cas de figure? Est-ce qu'ils sont plutôt détendus, blasés, effrayés?
Ah, moi, je les ai trouvés ce jour-là très blasés. Pour eux, c'était une journée vraiment très très basique. Alors que moi, j'étais terrorisé au bout de quelques minutes, sans compter les gaz lacrymogènes aussi, qui sont quand même que tout le monde reçoit, même eux. Et donc ouais, non, j'étais en panique totale, mais eux, ils étaient là. Enfin, il y en a quand même un qui a dit je m'ennuie, quoi. Ça me faisait penser à Obélix, Obélix qui trouve qu'il n'y a pas assez d'action. Et sauf qu'à un moment donné, quand même, il y a l'action arrive puisque bah, c'est le principe de beaucoup de manifestations aujourd'hui, c'est qu'il y a, on va dire, les manifestants normaux, et puis il y a une petite partie qui veut que ça dégénère, donc les casseurs, les Black Blocs. Et donc, il essaie de provoquer les forces de l'ordre. Et à un moment donné, ça marche. Et quand ça marche, voilà, quand on est au milieu, ça peut être assez impressionnant.
Bah vous, ça vous a fait penser à ça.
Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur?
Quoi?
C'est le napalm, fils. Y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là.
Allez, dégagez, dégagez, dégagez.
J'adore respirer l'odeur du napalm le matin.
C'est le presque début d'Apocalypse Now de Coppola, la fameuse scène avec le militaire qui dit qu'il adore l'odeur du napalm le matin. C'est à ça que vous pensiez dans votre première manifestation, Mathieu Sapin. D'ailleurs, une question, parce qu'on apprend énormément de choses dans votre bande dessinée. Quelle est la différence entre gendarme et policier? Vous évoquez la rivalité.
Alors, c'est très compliqué. D'abord, oui, il y a une rivalité. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les policiers sont surtout dans les agglomérations, les grosses villes. Et gendarmes, on va les trouver sur le reste du territoire. Mais je suis sûr que je vais me faire allumer si je réduis à ça. Et les gendarmes, avant, dépendaient de l'armée. Donc, ça s'approche plus d'un corps militaire, même si aujourd'hui, ça dépend du ministère de l'Intérieur.
Depuis 2009.
Oui.
Ça, on l'apprend grâce à vous. Qu'est-ce qu'une nébuleuse?
Ça, c'est dans la... Ah oui, c'est un quiz.
C'est vous qui me l'avez appris.
Ça, c'est dans une manifestation. C'est justement les Black Blocs qui essayent de créer comme... C'est assez joli d'ailleurs comme mot. C'est qui essayent de créer un agglomérat de gens qui le cercle de violence part de là, quoi.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Mathieu Sapin, vous publiez la bande dessinée À l'intérieur. Et donc, dans le ministère de l'Intérieur, il y a la police, l'accompagnement des migrants, l'organisation des Jeux Olympiques, la question des violences faites aux femmes, le service des renseignements. Et en fait, ça vous plaisait assez puisque vous vouliez être agent secret.
Oui, c'est vrai. Quand j'étais petit, je voulais être dessinateur de BD ou agent secret. Et bah, finalement, là, avec cette bande dessinée, c'était un peu l'occasion d'allier les deux. Oui, j'aime bien me glisser dans un vie ma vie, quoi, un corps de métier que je connais pas.
Là, et là, j'étais servi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le centre de veille?
Le centre de veille, ça, c'est à Place Beauvau, et c'est une espèce de salle avec plein d'ordinateurs qui veillent justement sur tout ce qui peut intéresser le ministère de l'Intérieur. Donc, ça a trait au renseignement. Et là, quand je raconte ce qu'on y fait, c'était pendant une manif, justement. Et donc, ils suivent tous les gens qui sont là, la manif en question, et ils recueillent en même temps plein d'informations, ce qu'il y a sur Twitter, ce qu'il y a sur je sais pas quoi, les articles. Tout ça est passé dans une espèce de centrifugeuse et ils font des notes sur tout ce qui peut intéresser les services sur la manif.
Il y a énormément d'acronymes.
Oui.
Il y a par exemple la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention. Bah, oui. Alors souvent, c'est mauvais signe hein, quand elle intervient.
Oui. Ça, c'est vraiment pour les... Bah, c'est eux qui sont intervenus pendant les attentats, par exemple.
Du Bataclan.
Du Bataclan. Et c'est... Oui, c'est les affaires très, très... très, très grave. Et d'ailleurs, c'est tellement passionnant que moi, j'arrivais pas à tout faire. Au départ, je voulais faire une bande dessinée collective, même. Et un peu comme sur la campagne présidentielle de 2022. Et puis, curieusement, quand j'ai proposé ça à mes camarades, ils étaient tous un peu occupés à autre chose. Et ça les a...
De gauche?
Oui. ils avaient tous des bonnes raisons pour pas faire de BD collective. Donc, je m'y suis collé tout seul. Sauf Christophe Blin, qui est mon camarade d'atelier.
Oui, qui vous précède presque.
Voilà, quand je lui ai parlé de la BRI, justement, alors là, ses yeux sont mis à briller. Et il m'a supplié, c'est peut-être un peu fort, mais pas loin, de le laisser faire une BD dans ma collection, donc sur la BRI. Et donc, c'est ce qu'il est en train de préparer.
La collection Les Embarqués.
Embarqués, oui.
Embarqués, pardon. GAV, prononcé
JAV. Garde à vue.
Un mec. Qu'est-ce que c'est qu'un mec? Parce qu'on apprend qu'un mec peut être une femme.
Oui, c'est un mise en cause.
En cause,
oui.
Alors, question idiote, comment est-ce que vous faites pour vous dessiner dans presque chaque plan sans vous voir ?
Oui, alors déjà, c'est très narcissique, j'ai l'impression, en plus, à chaque fois, de me dessiner, mais c'est vrai que c'est pratique.
Vous êtes le pendant humoristique à toutes les situations.
Oui, j'ai une espèce de ça se fait presque naturellement. Alors, il faut savoir que quand je fais une bande dessinée, comme celle-ci, j'ai un carnet, comme celui que j'ai avec moi aujourd'hui, et je fais des dessins en direct. Et donc, soit je dessine ce que je vois, soit je note ce que j'entends. Et après, dans la bande dessinée, le résultat, je rajoute mon personnage, puisque je suis celui qui a vu tout ça.
Alors, on apprend plein de choses, notamment que l'essentiel de l'activité de la brigade de répression du banditisme se passe dans le nord-est parisien, ouais. Appelé le deuxième district.
Ouais. Et ce qui était amusant, en parlant avec le commissaire en charge de la BRB, donc, c'était qu'il y avait une forme de nostalgie, parce que, à l'entendre, les bandits, c'est plus ce que c'était avant. On est un peu dans ouais, il y avait les, ils se connaissaient tous, les bandits, les policiers, et il y a de moins en moins. Alors, à cause notamment des cartes bleues, à cause de la dématérialisation de l'argent, il y a plus de braquage, il y a plus de ça paye plus ça le braquage.
Donc les films de Melville, c'est plus
ah ouais,
ça.
C'est has-been.
Oh non.
À la brigade des stupes, je suis tombé sur. Ils ont cherché mon split, ils ont trouvé mon paf à la brigade des stupes.
Brigade des stupes, morceau de 79 de Serge Gainsbourg, que vous chantez, Mathieu Sapin, à un moment dans un couloir.
Oui.
Et vous allez visiter quelque chose qui a fait beaucoup fantasmer, c'est-à-dire l'endroit où on stocke toutes les drogues,
ouais,
qui ont été prises. Moi, j'ai pensé au film Ali G in the House de Sacha Baron Cohen, vous l'avez
ah,
vu ?
Ah oui, alors je vois, oui, oui, c'est avec un rappeur, c'est
il
ça ?
Il est rappeur, et à un moment, ouais. Il va se servir en drogue et il drogue tous les membres de l'ONU,
ah, ouais.
Tous les
Moi,
chefs
d'État.
Je suis
pas allé jusque-là. Mais c'est vrai que c'est étonnant, ouais. Il y a ce lieu de stockage. Et puis, il y a aussi le musée. Il y a le musée de la drogue à l'intérieur du. Alors, ils appellent ça. C'est plus qu'il y a des orfèvres, c'est rue du Bastion, et donc dans le nord de Paris, et donc il y a tous les services, dont la brigade des stupes. Et donc dans la brigade des stupes, il y a un musée de tout ce qu'ils ont trouvé, par exemple les caches où on va cacher de la drogue. Alors je sais pas, ça peut être des bombes à aérosol, qu'est-ce qu'il y avait comme truc bizarre, des chaussures. Enfin bon, c'est assez marrant.
Vous avez rencontré aussi le chef de la brigade de protection des mineurs qui vous a informé que 10 000 mineurs se prostituaient aujourd'hui en France.
Oui, alors moi j'ai fait des impasses hein, dans cette BD, je ne parle pas de tout et notamment typiquement la brigade de répression des mineurs. J'ai un entretien avec le commissaire en question, mais je n'ai pas poussé. J'aurais pu hein, passer une semaine par exemple dans ce service-là. Et j'avoue que là c'est un peu ma limite. J'ai préféré m'intéresser à d'autres services.
Bah, y a la crime et il ouais. Y a la DIAN, la division oui. Des affaires non élucidées de la gendarmerie nationale. Vous avez appelé ça la division des cold cases, on vous a repris immédiatement,
ouais,
parce que c'est X-Files en fait.
Ouais, je sais pas pourquoi, ils aiment pas le terme cold case, donc c'est affaires non élucidées. Mais alors je sais pas si, non plus s'ils ont fait exprès, mais moi DIAN, ça me fait penser à Twin Peaks de David Lynch, parce que dans Twin Peaks, il y a l'inspecteur qui il parle à son assistante s'appelle Diane et il parle tout le temps à Diane. Mais ouais, là, ils ont eu une idée que j'ai trouvé géniale et que j'ai essayé de suivre dans la BD. C'est certaines affaires non élucidées, comme ils n'arrivaient pas donc à en venir à bout, ils se sont dit on n'est peut-être pas. On a trop tourné autour du truc, on va faire appel à des étudiants, alors plutôt des étudiantes en l'occurrence, que j'ai pu rencontrer. Et donc, il leur donne un cas, donc avec tous les éléments qui peuvent avoir un rapport avec le cas. Donc, je sais pas, les échanges téléphoniques, toutes les infos. Et donc, ces étudiantes sont, pendant un mois, elles bûchent là-dessus et elles sortent des choses que les services n'avaient pas trouvées.
Et ils couvrent un champ qui va de 2 heures à 33 ans.
Ouais.
Et vous décrivez leur emblème comme, je cite, un symbole chelou avec un arc céleste superposé sur un mannequin cadavre.
Ouais, oui, parce que chaque service de gendarmerie, police, chaque service, ils ont un espèce de pain blason, mais un petit symbole comme ça qui rentre dans un rond. Et ils aiment bien faire des dessins, alors parfois, je sais pas, des animaux, des chouettes, des trucs. Et là, c'était ça. Mais ouais, ils aiment bien les petites représentations graphiques, oui.
Alors à un moment, on sent que vous n'êtes pas très à l'aise, c'est dans le volet
souvent,
immigration. Souvent. Oui, pendant presque tout l'album, vous êtes très peu à l'aise.
Ouais.
Mais le volet immigration, vous vous surprenez vous-même à scruter les bosquets pour apercevoir des migrants. On apprend que ce sont principalement des Kurdes qui viennent de Syrie.
À Calais, ouais.
Ouais, à Calais, ouais. Et qui veulent rejoindre le Royaume-Uni d'ailleurs.
Oui, c'est étonnant cette espèce d'Eldorado que représente le Royaume-Uni, parce qu'ils ont la possibilité de s'arrêter en France, mais vraiment leur désir c'est d'aller au Royaume-Uni, mais en prenant des risques. Voilà, qui sont plus que, enfin c'est des très grands risques et c'est pour ça qu'en permanence il y a cette espèce de course pour eux à partir vers ce qu'ils imaginent un nouveau monde, et pour les services de gendarmerie ou de police de les arrêter dans cette course. Et c'est dramatique, surtout de voir à quel point les passeurs se font c'est un business très très lucratif. D'autant que
les prix augmentent.
Les prix augmentent, et puis la marchandise, qui est des êtres humains, et c'est une fois qu'elle est partie, il n'y a pas de stockage, donc ça c'est très pratique pour eux.
Mais ce qui est un peu rassurant tout de même, c'est qu'on dirait quand même que vous rencontrez des gens qui ont de l'empathie, ou qui sont concernés aussi par leur environnement, je pense notamment à l'épisode à Mayotte.
Oui, il y a de l'empathie, mais il y a aussi beaucoup de résignation et de. Enfin, j'ai l'impression que quand on lit l'album, il y a quand même cette impression qu'il y a tellement de. C'est sans fin, en fait. Et c'est un peu, ça peut être un peu décourageant.
Alors, il y a quelque chose d'assez amusant, tout de même, parfois, des choses amusantes. Par exemple, les exercices de gestion de crise pour les préfets.
Ah oui, ça, c'était très drôle. Oui, donc j'étais. C'était à Paris, dans le 7e arrondissement, près des Invalides. Et donc, il y a un petit groupe de préfets qui viennent s'entraîner pour la gestion de crise. On les met face à un journaliste, qui était Ulysse Gosset ce jour-là. Et ils doivent réagir à une fausse crise, mais dans un plateau, comme un plateau TV reconstitué. Et on voit qu'ils ne sont pas toujours très à l'aise, parce que le journaliste les malmène. Et c'est assez rigolo de voir un préfet qui est en stress, quoi.
Bon, à un moment, il est question de l'affaire Naël. Et il y a un brigadier-chef qui vous dit que dans le civil, il ne dit jamais qu'il est policier, mais kiné.
Ouais.
Bah, c'est à la fois drôle et ça fait aussi de la peine.
Ouais, moi ça m'a touché ce moment, parce que on sentait que c'est comme s'il assumait pas cette fonction, et ça, je trouve que cette anecdote là, elle dit beaucoup de choses. Ouais.
Bah, parce qu'on a reproché l'affaire Naël à toute la corporation.
Bah c'est tout le problème, quand il y a des violences policières, quand il y a des bavures, évidemment ça rejaillit sur tout le corps dans son ensemble. Ouais.
If You Want Blood de AC/DC. Mathieu Sapin, à un moment, vous vous demandez si c'est péché de dessiner le pape en écoutant AC/DC. Qu'est-ce que c'est que le service de la protection ?
Mais c'est une vraie anecdote, parce que donc, soit je suis sur le terrain, donc le service de la protection, c'est le service qui, ce jour-là, assurait la protection du pape, donc ce pape qui nous a quittés il y a peu, François, et donc il est venu à Marseille, c'était en septembre 2023. Et donc le service de la protection est là pour assurer toute la sécurité tant que la personnalité en question, donc le pape, est sur le territoire, ses services assurent sa sécurité. Donc il y a tout ce temps où je suis sur place à essayer de comprendre comment ça fonctionne, en m'amusant de voir par exemple qu'il y a le précurseur, qui est un des policiers qui va être déguisé en prêtre pour être au plus proche du pape. Donc le policier en question a une soutane.
Avec
un
flingue.
Il a un flingue accroché, comme dans les films, accroché à son mollet. Une valise qui se déplie sous forme de bouclier et des fausses lunettes. Donc tout ça est évidemment passionnant et très amusant à voir. Et dans un deuxième temps, je suis à Paris, dans mon atelier, et je dessine tout ça. Et quand je dessine, j'ai la chance de pouvoir soit écouter la radio, France Inter ou autre.
Évidemment.
Soit de la musique. Et souvent, pour me motiver, j'écoute, ça peut l'être de Brahms à AC/DC, mais là, ce jour-là, c'était AC/DC, et je me suis dit, mais attends, je suis en train d'écouter Highway to Hell en dessinant le pape, donc c'est quand même rigolo.
To Hell en plus, je veux dire, vers l'enfer. Oui. Qu'est-ce qu'une bénalette ?
Alors une bénalette, c'est quelque chose qui... C'est ce qu'on fait quand on usurpe un peu ça... Quand un policier ou même quelqu'un qui travaille pour l'intérieur, tout d'un coup, hors contexte, va se prendre pour un justicier. Et moi, ça m'est arrivé, j'étais dans la rue et j'ai voulu m'en prendre à une automobiliste qui avait fait une infraction et qui avait failli m'écraser, tout simplement. Donc je suis allé la voir en disant que je travaillais pour la police, et elle m'a pas du tout pris au sérieux. Mais en fait, cette impulsion de vouloir faire le justicier en dehors de ses heures de travail. Voilà, c'est une bénalette.
Alors, les Boeufs Carottes, c'est la police des polices, c'est l'IGPN. Et oui, ce qu'on apprend grâce à vous, Mathieu Sapin, c'est qu'ils font attention à l'image de la police et ont aussi des sollicitations sur les tatouages et les coupes de cheveux de leurs agents.
Ouais, parce que de plus en plus, il y a beaucoup de policiers qui sont tatoués ou qui ont des piercings ou des coupes de cheveux. Et il y a quand même un souci de la représentation voilà, de ce service public. Et donc, il y a des choses qui passent pas, ouais. Des tatouages, je peux pas, qu'est-ce que je pourrais trouver comme truc qui passe pas, mais on peut imaginer. Il y a plein de choses. Ouais.
Dans quel service vous aimeriez travailler si vous étiez obligé?
À la DGSE, être agent secret, comme je le disais. Le standard de ce soir dans la 20e heure sur France Inter, c'est Peppino Di Capri, Notte di Luna Calente. Pourquoi vous rigolez, Mathieu? C'est joli, Peppino Di Capri.
J'adore. Bah oui, vous le connaissez pas?
Non.
Il est génial. Il a fait des tubes qui sont notamment sur la bande originale du film Le Fanfaron.
Ah oui, j'adore.
C'est ouais, formidable. Ouais. Je vous ai demandé des découvertes pour les auditeurs. Vous avez choisi deux livres. Ouais. Sam Savage, La Complainte du Paresseux, et Elias Canetti, La Langue Sauvée.
Ouais. Alors, Sam Savage, moi, c'est ma sœur qui m'a offert ça, Clémence, qui a fait les couleurs de l'album. Et c'est extraordinaire. C'est constitué que de lettres, ou de notes, ou de listes de courses même, fait par le personnage principal. Et on découvre sa vie avec cet ensemble d'écrits, ce qui est rassemblé sur une année. Et c'est un espèce de loser, mais complètement mytho, et qui veut créer une revue littéraire. Et ce qui est très drôle, c'est la façon dont il se contredit et l'espèce de médiocrité du personnage. Et c'est très très bien amené dans la façon dont les écrits sont rassemblés. Je conseille, vraiment. Et puis c'est pas très connu, donc voilà, je voulais faire un peu le malin avec ça.
Bah vous le faites, hein, on le mettra sur le site internet pour les auditeurs qui veulent.
Non, vraiment, voilà, c'est très drôle. C'est assez cynique, mais très drôle. Et Elias Canetti, c'est un auteur que j'avais découvert il y a un petit moment, mais j'adore la façon dont il... En ce moment, j'ai une espèce de passion pour la Mitteleuropa, et puis je suis très... je trouve que la période est pas évidente, et donc j'aime bien me tourner vers le passé, même si dans le passé aussi, il y avait des trucs pas super, mais donc lui, il raconte sa vie sur plusieurs volumes, donc La Langue Sauvée, c'est le premier volume. Il est né à Routchouk, qui est en Bulgarie, qui est au bord du Danube, en face de la Roumanie. Et donc, il raconte son enfance, après comment il va à Londres, après, etc. Et c'est, C'est très très bien écrit et on voyage dans le temps et dans l'espace. J'adore.
Eh bien, allons pour le moment en Alsace.
J'ai débuté ma carrière avec du très fin et aussi à une époque, tu vois, où dans le livre, les éditeurs n'ont pas toujours beaucoup d'argent pour imprimer en couleur. Il fallait donc que je me limite à une ou deux couleurs. Alors pour les bandits, eh bien, je me suis dit, comme c'est une scène nocturne et que les choses se passent en grande partie dans l'obscurité, la ligne fine ne se verrait pas aussi bien dans l'obscurité qu'un trait prononcé. C'est-à-dire que j'ai surtout voulu faire ce livre aussi un peu pour effrayer les petits-enfants. J'aime toujours beaucoup effrayer les enfants et les adultes, j'aime encore plus mieux les effrayer. Ça me donne encore plus grand plaisir. C'est pour ça que j'aime assez la blague, d'ailleurs.
C'est le dessinateur Tommy Ungerer en 83 sur France 3. Et ça fait partie de vos influences, Mathieu Sapin.
Ah, pour moi, oui, c'est les albums de Tommy Ungerer. Ma mère me les lisait quand j'étais petit.
Votre mère qui était bibliothécaire comme ouais. Celle d'Ungerer.
Ah oui, ça je ne savais pas.
Ah bon, mais c'est vous qui
enfin,
le dites dans une interview.
Je savais que ma mère était bibliothécaire, mais celle de Tommy Ungerer, peut-être. Enfin,
en tout cas, ma mère était bibliothécaire. C'est un autre Mathieu Sapin qui le dit dans une interview.
Bon, alors ça doit être
dans
le cas.
Un autre espace-temps.
En tout cas, ma mère l'était. Et donc, elle me lisait ça. Et ça m'a marqué visuellement, parce que c'est des images très fortes. Il a un sens de l'image qui est extraordinaire. Et aussi dans les histoires, les propos. Et c'est ce qui m'a donné envie, il y a 2-3 ans, j'ai fait un truc complètement bizarre, c'est-à-dire que j'ai adapté en bande dessinée un récit dessiné de Tommy Ungerer. Donc je trouvais ça très gonflé, mais comme il n'était plus là, je me suis autorisé ça. Je pense qu'il n'aurait pas du tout aimé en fait cette idée bizarre. Mais donc pas de baiser pour maman, j'ai adoré dessiner cet album qui raconte la journée d'un sale gamin, un chat qui en a marre parce que sa mère est trop affective, trop affectueuse, et il se rebelle contre elle. Mais à la fin, c'est quand même mignon.
Le premier souci est évidemment celui du scénario. Ensuite, il s'agit de faire le découpage, qui est la partie la plus délicate, la plus difficile au fond à faire, car il faut donc raconter l'histoire, et il faut que tout soit raconté dans un nombre X de dessins sur une page. Ce travail-là fait, voici par exemple une page de l'histoire Tintin au Tibet, voici le découpage d'une planche, voici la planche de travail où on a travaillé vraiment avec toutes ses forces sans tenir compte de la propreté de la page.
Ah, vous en avez remis.
On y a été très fort. Et puis après, à ce stade-ci, cette feuille-ci repart chez mes collaborateurs qui, eux, alors, vont dessiner tous les accessoires, les fauteuils dans ce cas-ci, les plantes, les décors, enfin tous les décors.
On entend Hergé sur la RTS en 1960. Une autre de vos inspirations, Mathieu Sapin, pendant le confinement, vous avez relu toutes les aventures de Tintin et vous êtes inspiré aussi de lui pour la couverture de plusieurs de vos albums.
Mais oui, tout à fait. Oui, en effet, les albums de cette collection, j'essaie de voir comment, parce que comme moi-même je suis une sorte de Tintin finalement, Tintin c'est un reporter avant toute chose. Et donc, j'aime bien faire des espèces d'allusions. Donc, celle-ci, à l'intérieur, il y a un petit clin d'œil avec l'affaire Tournesol, par exemple, avec un éclaté sur la couverture et puis des personnages qui courent en uniforme. Donc, vous pourrez regarder chez vous si vous avez l'affaire Tournesol. Mais les autres aussi, il y a à chaque fois, il y a un espèce de clin d'œil avec des albums de Tintin parce qu'il avait un sens de la couverture qui était tellement iconique. Si on vous donne si je vous dis le lotus bleu, vous voyez la couverture du lotus bleu.
Alors, la couverture de votre album Gérard, c'est un peu Tintin au pays de l'or noir.
Ouais.
Et alors, Gérard Depardieu, en 2012, vous le rencontrez lors d'un documentaire tourné dans le Caucase. En 2017, ouais. Vous publiez Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, qui se vend à plus de 100 000 exemplaires. J'imagine qu'on vous en parle souvent.
De Gérard ou de cet album de Depardieu on parle, oui. Alors, c'est très étrange. Par exemple, enfin, étrange, je ne sais pas, mais maintenant, souvent, quand je suis dans des rencontres publiques, on omet justement de citer cet album. On va parler de tout ce que j'ai fait, mais pas de celui-ci. Ou dans certaines librairies où j'ai pu faire des signatures, l'album n'est plus là.
Et moi, je suis contre la censure.
Je suis contre la censure, mais surtout, ce qui m'a étonné, c'est que récemment, dans une interview, on m'a dit « Est-ce que vous referiez cet album aujourd'hui ?» Enfin, est-ce que vous regrettez de l'avoir fait plutôt ? Alors que, mais jamais. Au contraire, pour moi, c'était une rencontre qui a été absolument marquante. Et voilà, Gérard Depardieu est un personnage qui a été pour moi très très intéressant, qui m'a ouvert les portes sur plein de choses. Et après, qu'aujourd'hui, il y a évidemment tout ce dont on parle, je comprends très bien que ça puisse poser problème, comme on dit, mais je ne vais jamais regretter d'avoir fait ça, au contraire. Et il a été avec moi très généreux, très de façon presque même exagérée, parce que personne ne vous ouvre comme ça toutes les portes de chez soi.
Arnaud, la France, ça t'intéresse ?
La France ?
C'est sérieux la politique. Je me prends pas pour toi, mais c'est juste comme tu sais rien faire.
Bah, je parle quatre langues quand même.
Oui, mais Catherine, elle fait sa campagne en France. Et en français, du coup.
Mais je parle français aussi.
Tiens, aide-moi. Je veux pas de palmiers sur les photos de Pascal.
Donc quoi, faut les couper ?
Non, on va plutôt baisser les stores.
Vous êtes le nouveau stagiaire ?
Non, je suis son nouvel assistant.
Agnès !
Mais qu'est-ce que tu fais taire ?
La nana, elle a eu un
problème. Mais me raconte pas ta vie, je m'en fous ! Espèce de cocole.
J'aime pas trop quand on m'appelle Gogol.
Dans ma bouche, c'est affectueux.
On entend la bande-annonce de votre film Mathieu Sapin, Le Poulain, avec Alexandra Lamy et Finnegan Oldfield, dont le scénario a été écrit avec Noé Debré. Vous aviez fait un court-métrage aussi, Vengeance et Terre battue, avec Charlotte Lebon et Gustave Kervern. Vous avez prévu de faire un prochain film ?
Oui, j'y travaille, mais c'est long et c'est plus compliqué que la bande dessinée. La bande dessinée, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on est d'accord sur un album, il n'y a plus qu'à. Au cinéma, il faut de l'argent, c'est un autre sujet, mais oui, c'est en cours.
Vous êtes hyperactif, et dans une interview, vous dites « Mon dimanche idéal, c'est de pouvoir bosser au café sur des trucs perso ».
Ouais,
alors, c'est quoi les trucs perso sur lesquels vous bossez ?
J'aimerais bien justement reprendre Super Murgeman, par exemple, dont on parlait en début d'émission, qui est un truc qui plaît à beaucoup moins de lecteurs que le reste, mais
moi, ça me plaît.
Ah bah c'est gentil, mais qui m'éclate. Et blague à part, moi j'ai la chance de faire vraiment des choses passionnantes qui m'amusent et d'éprouver un plaisir. Qui est toujours là et ça je suis très très heureux de ça.
Vous êtes aussi boulimique concernant la lecture, vous lisez une quinzaine de livres en même temps, mais vous avez une BD de chevet, c'est Belle d'un jour de Robert Crumb.
Ah ouais. Oui, j'aime beaucoup, enfin tout Crumb en fait. Robert Crumb, c'est un auteur qui est d'abord énormément prolifique. J'ai pas du tout toute sa production, loin de là, mais j'en ai beaucoup. Et c'est donc cet auteur américain qui a vraiment commencé dans les années 60, mais qui a révolutionné le genre autobiographique et qui, graphiquement et dans sa manière de raconter, est pour moi indépassable, ouais.
Alors, à la fin de À l'intérieur, achevé le 12 février 2025, il y a un clin d'œil pour l'album suivant. Ce sera sur le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame, prévu chez Dargaud en novembre 2025. Et il nous reste quelques secondes pour que vous nous en disiez un petit mot.
Oui, parce que j'ai eu cette chance de pouvoir suivre le chantier. En même temps que je suivais le ministère de l'Intérieur, je passais une journée dans un hélicoptère en montagne et une autre à Notre-Dame.
C'est pour ça que vous êtes sorti en mauvais état.
Oui, voilà.
Quel est votre rapport à la foi ?
Oh, la question.
Bien sûr, je profite du fait que vous n'ayez pas le choix là.
J'ai une éducation religieuse et surtout, moi j'ai un papa qui est archéologue et donc qui est spécialiste des églises et des églises romanes notamment. Donc pour moi, faire une bande dessinée sur Notre-Dame, il y a quelque chose de très psychanalytique qui permettait de parler justement de la foi, de l'art et aussi de la politique, parce que Notre-Dame, ça a été aussi très utilisé par le président de la République, par exemple.
Vous avez fait une réponse habile et politique. J'espère qu'on en saura plus dans la bande dessinée. Merci beaucoup, Mathieu Sapin.
Merci.
Votre bande dessinée À l'intérieur est parue aux éditions Dargaud. Votre album sur le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame paraîtra chez le même éditeur en novembre prochain. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Betty Algray et Franck Olivard. À la programmation musicale, Thierry Dupin. À la technique, Adèle Caglar et Frédéric Kiefer. À demain, 20h10.